Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment de la saga de dystopie fantastique Absolue, parue chez Big Bang, numéro 1 des ventes jeunesse à sa sortie. Les mots raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition et qui vous aide à aller des premières idées à la publication de votre roman. C'est aussi une académie en ligne avec des masterclass et des ateliers en live chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine. Petite anecdote marrante, au moment où j'allais appuyer sur le bouton play pour lancer l'enregistrement, moi j'ai renversé tout mon café, sur toute ma table, mon bureau. Donc ça fait 10 minutes que Pauline, qui est avec moi, me regarde essuyer mon bureau frénétiquement. Et sachez que je suis très heureuse pour une fois d'avoir tous mes écrans surélevés puisqu'il n'y a que mon clavier qui a pris un peu le café. Donc voilà, c'était la petite anecdote marrante. Autre anecdote très chouette aujourd'hui, et c'est plus important pour cet épisode de podcast, aujourd'hui j'ai avec moi Pauline Moreau, qui est scénariste, que j'ai connue via sa newsletter. En fait, je l'ai connue finalement grâce à Sophie Glioka, puisque c'est Sophie qui m'a introduit à l'application Substack, qui est l'application qui est devenue celle que j'utilise pour les newsletters. Et ce qui est chouette avec Substack, c'est comme une sorte de réseau social, puisqu'on peut aller suivre d'autres newsletters facilement. Et c'est comme ça que j'ai connu Chitchak, qui est une newsletter vraiment pas facile à prononcer, Pauline, je tiens à te le répéter, et que j'ai découvert du coup Pauline, et que de fil en aiguille, j'ai lu ce qu'elle faisait. Je me suis dit, en fait, ce serait beaucoup trop intéressant de l'avoir sur le podcast. Donc merci, Pauline, d'être ici avec nous.
Merci à toi, je suis très contente d'être là, j'ai hâte de te parler.
Eh bien écoute, le plaisir est partagé. Dis-moi, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne lisent pas ta newsletter, bref, voilà, des gens comme ça, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, bien sûr, je m'appelle Pauline, j'ai 33 ans et je suis scénariste, autrice. J'écris plein de choses sous différents formats. Côté scénario, j'ai participé à l'écriture d'une dizaine de séries à différents stades d'écriture. J'ai écrit mes courts-métrages, j'ai écrit... 4 projets de long métrage, dont un qui a eu la chance de devenir un film, qui s'appelle La Graine, qui est sorti l'an dernier, donc je suis très fière. Voilà, à côté de ça, comme tu l'as dit, j'ai lancé en septembre dernier ma newsletter qui s'appelle Chitchak, qui en fait est une newsletter qui démocratise, qui vulgarise un petit peu des concepts un petit peu compliqués pour répondre à des questions très précises sur l'écriture, comment on rend un personnage complexe, comment est-ce qu'on travaille bien, on dilate le personnage, voilà, avec une approche. Déjà, moi, j'essaie de m'amuser en l'écrivant et où j'espère vraiment que les lecteurs en repartent avec des astuces et des conseils concrets à appliquer, qui marchent ou qui ne marchent pas, mais au moins des billes où ils se disent « Ah, ça, c'est concret, je peux tenter, je peux voir. » Donc ça m'occupe bien depuis l'automne dernier, c'est plutôt chouette. Et à côté, j'écris aussi des articles sur le scénario de manière générale, avec une chaîne historique, géographique, thématique, pour la Cité européenne des scénaristes. Ça c'est un projet que j'aime énormément où en fait donc je m'occupe de la revue de la cité. Chaque semaine on écrit un article sur le scénario et là on fait des séries parce que c'est toujours bien d'avoir un thème puis de creuser un petit peu sur plusieurs épisodes. Et là la série en cours c'est sur les femmes et Hollywood au début du siècle, parce que ce sont les femmes scénaristes qui c'est la grande machine hollywoodienne comme on la connaît. Forcément elles ont été un peu mises de côté parce que bon, les hommes oublié quand ça ne vient pas d'eux. Et voilà, et donc là, on est en train de publier ces articles-là et on va parler de plein de choses. La prochaine série, ça va être sur le cinéma d'animation en Afrique. Tu vois, on va vraiment partir sur plein de... L'idée, en tout cas, mon ambition, ma volonté, c'est d'essayer de faire une espèce d'encyclopédie du scénario parce que ça n'existe pas encore et que le métier de scénariste a longtemps été dans l'ombre. Et il y a énormément de choses à raconter à travers ces auteurs, ce qu'ils racontent. Comment ça se fait, de cette manière dont ça croise un petit peu toutes mes passions.
Bah écoute, c'est très passionnant et c'est toujours intéressant de voir quelqu'un avec autant de casquettes. Tu dois pas t'ennuyer dans ton quotidien.
Non, j'ai appris à bien mettre des barrières, à bien faire mes créneaux pour pas te surmener, tout simplement. Tu vois, pour vraiment apprécier ce que chaque projet a à m'apporter. Et donc ouais, j'ai appris à bien gérer mon temps.
Pour mieux comprendre un peu ton métier aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu en arrière. Comme ça, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ton parcours, qui n'ont pas lu ton CV, ce qui, à mon avis, constitue 99% des gens qui nous écoutent, en sauront un peu plus. Pendant plus de 4 ans, tu as travaillé dans l'acquisition et la production de cinéma, ainsi qu'en tant que script doctor, pardon. En quoi consistent ces deux métiers et pourquoi tu as arrêté après pour te lancer dans le scénario à temps plein?
Ouais. Alors, en fait, moi, initialement, je ne m'étais jamais imaginé un potentiel de création, tu vois. Je savais qu'à la base, je voulais bosser dans le cinéma. C'était mon rêve depuis que je suis en seconde, je le dis. Et pour moi, c'est évident que n'étant pas capable de créer, enfin, vraiment, les métiers artistiques, ça ne rentrait pas dans ma tête. Ben, le côté business, ça allait être le chemin. Donc, j'ai fait une école de commerce, qui est une expérience que je renouvelle pas. Mais j'ai fait une école de commerce qui m'a permis, à la fin de mon cursus, de rentrer donc dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma. Mais tu vois, c'est marrant parce que dès cette période, en fait, dans mon tout premier stage, c'était le développement. C'est-à-dire, en fait, les boîtes de production, les grandes entreprises, elles ont des personnes chargées spécifiquement de l'accompagnement sur le scénario. Donc, en fait, moi, je suis arrivée et d'ores et déjà, j'étais sur le matériel du scénario. Alors que j'avais jamais lu le scénario. Hein, c'était vraiment, bon, comme on l'a dit parfois. Voilà. Et donc, mon travail, pendant des années, à travers différentes sociétés comme Canal+, ou M6, ou même des boîtes de production indépendantes, c'était de lire des scénarios et de dire quels sont les points positifs, négatifs, aussi bien, tu vois, sur le côté artistique que sur le côté commercial. Donc, en gros, mon travail, c'était de lire un scénario par jour et de faire ce qu'on appelle des fiches de lecture, en proposant aussi bien une analyse de où est-ce qu'on en est, quels sont les points forts, les points faibles, et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et donc ça, c'était ma formation, en fait, de scénariste. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait la FEMIS, je n'ai pas fait toutes ces écoles de scénario. Mais étant du côté production, déjà, à l'endroit du scénario, ben c'est comme ça que, en fait, je me suis retrouvée plongée dans ce milieu, quoi.
En fait, ça se rapproche presque du métier de bêta-lecteur professionnel du côté des romans.
Exactement, c'est exactement ça. Exactement ça, sauf que, ah, je ne connais pas ce que tu dis, mais je pense que là, il y a un gros travail aussi de chiffres, tu vois, quand on
Bien
travaille pour
sûr.
Canal+, et qu'il faut dire qu'en fait, tu penses que ce scénario-là, il va faire tel nombre de chiffres, parce que les scénarios qui ressemblent, ils ont fait tel nombre de chiffres en France. Je sais pas si côté du roman, il y a une telle différence, ouais, tu vois.
Non, du côté du roman, tu comprends, c'est l'art. Et donc, la partie marketing et la partie édito sont très séparées parfois. Parfois non, parfois là-dessus. Enfin, pas au niveau des bêta-lecteurs. Les bêta-lecteurs sont vraiment là pour étudier le texte, mais pas forcément pour étudier son potentiel de vente. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de montrer que dans ton cas, tu devais à la fois gérer le texte et son potentiel de vente.
C'est ça. En fait, il y avait vraiment le côté. C'était dur parfois parce que le côté artistique pouvait être très bon, très intéressant pour plein de raisons. Et donc, tu essayes d'argumenter, tu vois. Tu vas chercher pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que. Voilà. Et à côté de ça, tu regardes les chiffres et tu compares les films qui pouvaient ressembler. Tu vois que les chiffres ne sont pas bons, que les films se sont coûtés. Et c'est pénible parce que tu sais qu'en fait, t'es N plus 1, N plus 2, ils vont juste regarder les chiffres, quoi. Et
Ouais.
même si toi, tu as défendu le scénario avec ton âme en disant c'est super, t'as raison, ça, moi j'avais vu ça en France, et nanani, nanana, bon, en fait, tu sais que ça va se prendre, ça va passer quoi. Donc, ça, c'était voilà, c'était un peu désespérant, mais très intéressant aussi de voir comment ça fonctionne, tu vois.
Et c'était quoi les problèmes que tu rencontrais le plus souvent en tant que script doctor? C'est dur à dire, script doctor. Tu fais
Ouais.
travailler ma diction aujourd'hui, je pense.
Oh.
Ne t'excuse pas, voyons, je plaisante. Quels étaient les problèmes que tu rencontrais le plus souvent dans les scénarios que tu lisais parce que tu as dû en lire énormément? Est-ce que tu as vu ressortir des choses qui revenaient régulièrement?
Alors, pour te répondre, et à mon avis, il y a trois points qui revenaient assez souvent. Le premier point, c'était sur le personnage, c'était le côté avoir de l'empathie pour le personnage. Donc, moi, ça, à l'époque, c'est en 2014, et je ne sais pas si c'était une tendance ou une mode, mais les personnages étaient assez désabusés. Tu vois, c'était maintenant des personnages, un peu genre l'archétype du anti-héros. Et c'est intéressant, ce genre de personnage, mais il faut faire attention à ce qu'à un moment, le lecteur, il soit dans. M'embêter avec ce qu'il traverse et ses problèmes. Et quand tu mets ton personnage dans une position un peu trop désagréable, ça peut être dur de raccrocher le wagon. Ça, je me rappelle que ça arrivait souvent. Le deuxième truc, c'était bah, l'éternel ventre mou. En fait, un scénario, c'est très, très codifié, structuré, tu vois. Et 1 minute à l'écran, ça correspond à 1 page de ton scénario. Donc, en fait, il faut qu'à la page numéro 60, c'est l'heure de film. Il faut qu'il y ait le milieu de ton film narratif, tu vois. Enfin, il y a vraiment, tout est codifié. Par exemple, là, je viens pour te donner un exemple, chez Netflix, en ce moment, si à la 7e page de ton scénario, donc à la minute numéro 7 de ta série, il ne se passe pas la fin de ton acte 1, début de l'acte 2. Ça va pas assez vite, il faut changer, tu vois. Et donc, c'est très, très codifié. C'est vraiment...
C'est rapide, 7 minutes, quand même.
Ouais, mais ça montre que pour Netflix, il y a des problèmes d'attention du public, quoi. Et qu'en fait, si tu ne chopes pas les gens au bout de 5 minutes, les gens, ils aiment, quoi. Tu vois, donc ça, c'est une autre facette du métier. Et donc, dans le scénario, il y a le fameux ventre mou qui est, en gros, le milieu du film, la fin de l'acte 2, qui manque un peu de peps pour relancer, tu vois, vers le troisième acte. Et souvent, d'ailleurs, les problèmes du mou ne viennent pas du ventre mou, mais viennent d'avant. Tu vois, forcément, ça vient forcément du début du film, où les enjeux n'étaient pas assez précis, les motivations et tout. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et le troisième problème, à un sens, c'était le manque d'originalité. Ça, les modes, c'est terrible, parce que quand tu bosses à ce niveau du film, tu vois très bien qu'en fait, c'est toujours les mêmes histoires. Alors en 2014, je ne pourrais plus te dire ce qu'était la tendance, je ne me rappelle pas, mais le sentiment de lire trois fois la même histoire, tu vois, c'était assez terrible, quoi. C'est pour ça que quand il y avait des trucs qui sortaient et que j'essayais vraiment de dire que c'était intéressant, mais que forcément, ça n'avait jamais été fait, donc tu n'avais pas des bons chiffres pour soutenir ton propos. Enfin, tu vois, c'était un petit dilemme, quoi.
Je pense que ça, dans tous les milieux artistiques, ça existe, parce que même dans les romans, en tout cas, en young adult, ça se voit beaucoup. Il y a des modes et ça dure parfois 3, 4, 5 ans, ou pendant 3, 4, 5 ans, il y a un genre qui prédomine. Et c'est assez impressionnant quand même. Parce qu'on sent qu'il y a des auteurs qui avaient très envie d'écrire ce genre, mais on sent aussi que les maisons d'édition, elles cherchent énormément parce que ça fait vendre, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que ces deux milieux se parlent à ce sujet.
Complètement. Et lui, aussi le truc fait beaucoup plus en soum-soum, en sous-marin. Il paraît que TF1, en ce moment, ils veulent une série avec deux flics portés par des femmes. Et donc là, tout le monde se met à gratter des projets. Et alors qu'en fait, le temps que ça arrive chez TF1, il... soit c'est quelqu'un d'autre, soit la phase est passée, tu vois, donc c'est aussi très... Ouais. C'est adapté, quoi.
Effectivement, parce que le temps de pondre un scénario... Mais d'ailleurs, toi, comment et pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture de ton premier scénario?
En fait, moi, je suis dans l'entreprise et ça commençait un peu à moins me convenir, tu vois, je me retrouvais moins... Et puis je me retrouve entre deux CDD et il y a un copain qui me parle d'un fait historique dont j'avais jamais entendu parler, qui est qu'en Roumanie... sous Ceausescu, les femmes étaient obligées d'avoir au moins 4 enfants avant 40 ans. Et là, je dis, quoi ? C'est quoi ce truc ? Je commence à le lire, et ça existe, et c'est un décret, et c'est une réalité, tu vois. Et je commence à me dire, mais en fait, il y a une histoire à faire. Enfin, c'est évident. Et donc là, je suis au chômage, j'ai que ça à faire, mais en septembre, il fait beau, donc je me mets sur des terrasses, et je commence à écrire, mais avec une légèreté, mais vraiment, c'était évident, j'allais écrire un scénario, mais je ne me posais pas de questions, tu vois. Et tous les scénarios que j'analysais depuis des années, tu vois, les centaines de scénarios que j'avais analysés au jour le jour, j'avais quand même appris inconsciemment à structurer un scénario, quoi. Et donc, je l'ai écrit en 2 mois, cette histoire. Mais vraiment, j'y repense avec tendresse, parce que j'étais tellement bien, tu vois, j'étais sereine, et c'était une évidence, et j'étais bien, et c'était... Voilà. Et donc, j'ai écrit cette histoire, en fait, moi, j'ai dit, c'est l'histoire d'ados qui vont forcément se rebeller dans le système et tout. J'ai énormément de recherches historiques et je tisse mon histoire là-dedans. Et au bout de 2 mois, j'ai une V1, quoi. Puis, bon, je fais lire à des gens. J'ai toutes sortes de retours qui partent dans tous les sens. Et je me dis, bon, bah, écoute, maintenant, on va chercher un producteur. Parce que c'était ce qu'il y avait à faire, tu vois. Et donc, j'envoie mon scénario à une vingtaine de producteurs et j'ai zéro réponse. Zéro réponse. Je me dis, bon, ok. Alors, à l'époque, je me disais que c'était parce que j'avais pas fait la FEMIS. Et donc, tu vois, genre, Pauline, qui sait, personne, un scénario, la FEM, 120 pages, pour Roumanie, tu vois. Donc, moi, je me disais qu'ils s'en foutaient. Mais, à l'époque, j'avais quand même une énergie de bâton, parce que je me disais, c'est pas grave, mon scénario, je sais qu'il est bien, je sais que ça raconte une histoire qu'il faut que les gens connaissent, en fait. C'est ça qui me portait. C'est pas mon exécution d'histoire, c'était le fait que c'est un vrai fait historique de fou, quoi, où un pays a obligé des femmes à avoir des enfants, tu vois. Et donc, j'étais portée par ça, j'étais portée par ce message, et je postule à un concours de scénario qui s'appelait le prix Sopadin, maintenant c'est les prix du scénario. Et je postule à ce prix-là, et je suis prise, je passe un tour, deux tours, et puis je retrouve du boulot entre-temps, donc voilà. Et je fais la cérémonie, et puis j'ai le grand prix, quoi. Donc, merci, du coup, incroyable. Et je te promets, le lendemain matin, j'avais 30 mails dans ma boîte mail, à peu près de tous les gens qui n'avaient pas répondu, en mode « Ah tiens, on vient de retrouver votre mail, finalement on serait intéressé de vous parler, ah tiens, mais c'est intéressant et tout. » Là, je peux te dire que je n'ai pas répondu à tout le monde.
Tu m'étonnes. C'est hyper drôle de voir les parallèles. Je sais que je ne fais que des parallèles, mais c'est hyper drôle parce que effectivement, ouais, bah tous les écrivains qui nous écoutent actuellement, parce qu'il y a majoritairement des écrivains qui sont là, qui savent que bah les maisons d'édition la plupart du temps ne répondent pas et que parfois avoir un coup de boost sur sa communauté, gagner un prix, tout ça, ça aide. Ça fait chier, mais c'est vrai que ça marche, quoi. Mais ça fait chier qu'on doive en passer par là pour que ça marche.
Oui, et moi, ce qui m'avait fait chier à l'époque, c'est qu'en fait, je ne demandais pas un service à un gars en mode « Allez, lis mon truc, je te jure, c'est bien. » Je contactais des chargés de développement dont c'est le métier de lire des trucs et de choper des bonnes histoires. En fait, moi, c'est ça qui me bloquait. C'était le côté, encore une fois, pas un service à un gars qui a autre chose à foutre. Non, des gens qui sont payés pour lire des scénarios et voir le potentiel, le truc, le machin. Et je te jure, j'ai eu zéro réponse, tu vois. Et quand je vois le lendemain de la cérémonie, les mails dans ma boîte, je suis là, oh là là, mais c'est... Moi, ça m'a fait rire aussi, parce qu'il vaut mieux en rire, mais comme tu dis, mais vous, dans des romans, ça doit être encore pire, parce que vous n'avez même pas de réponse aussi.
Oui, ça arrive aussi. Mais dis-moi, enfin, nous, on a un peu des chiffres de savoir combien de manuscrits reçoivent des maisons d'édition par an. C'est phénoménal. C'est phénoménal, ouais. Parce que beaucoup de gens écrivent des romans. Mais au niveau du scénario, est-ce que tu sais combien de manuscrits... Enfin, combien de scénarios, plutôt, dans leur cas, ils reçoivent sur certaines périodes? Parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus flou, j'ai l'impression.
Ouais. Alors, je pense que le roman, c'est beaucoup plus. Tu vois, je pense que le roman, c'est beaucoup plus. C'est très dur de dire des chiffres au niveau du lien scénariste-producteur. Parce qu'il y a tellement de boîtes de production, c'est très compliqué. Par contre, une fois que tu as chopé un producteur avec qui tu as développé, tu as été un petit peu payé pour améliorer ton script, le producteur, après, il va aller vendre ton scénario à des diffuseurs. Sans les diffuseurs, ton projet n'existera pas. Donc, on parle à la télé, c'est Canal+, sur les séries, Netflix, Amazon, tu vois. Au cinéma, c'est Pathé qui distribue ton film, tu vois, Mgado et compagnie. Ce qu'on m'avait dit à une époque, c'est qu'au niveau des séries Canal+, en gros, ils partent sur peut-être... je ne sais plus si c'est au mois ou à l'année, mais non, c'est à l'année. 30 séries qui pensent développer sur l'année. Sur les 30, eux-mêmes, ils savent qu'il n'y en a que 10% qui verront peut-être le jour. Donc en fait, même, c'est ça. Bah oui, regarde, quand tu vois séries Canal+, en lancement, événement, machin, il y en a pas plus de 3 par an, tu vois. Mais eux, derrière, en fait, ils ont fait travailler 30 projets dans l'espoir de voir lequel aller au bout, tu vois.
C'est vrai que ça me rappelle... Alors, là, j'ai un exemple hyper précis en tête parce que j'ai le livre devant moi. J'étais très, très fan des Tara Duncan quand j'étais jeune. Et elle avait signé pour l'adaptation de son livre au cinéma et ou en série, je ne sais plus. Et ça n'était jamais arrivé. Et j'ai appris avec le temps que le monde de l'édition était long, mais que le monde du cinéma était pire.
Ah oui, ça, non seulement c'est pire, mais en plus, la norme, c'est de... La norme, c'est pas d'échouer, parce qu'il faut revoir la manière de considérer l'échec, mais la norme, et que ton projet n'existera pas. Et ça, moi, je te le dis, ça fait 5 ans que je suis scénariste. Mes copains scénaristes, quand 50 ans, ils me disparaissent. La norme, c'est de te dire qu'en fait, tu vas te lancer dans des projets qui ne verront pas le jour. Parce qu'en fait, entre le moment où tu écris, imagine, il y a un scénariste, Benjamin Duplac, il y a une image qui m'a marquée. Tu vois, un égouttoir à pâte. Tu vois, les petits trous. Bah, tu imagines que tu mets 5 égouttoirs à pâte les uns derrière les autres. Tu les fais tourner, chacun dans un sens différent. Et toi, tu es d'un côté et tu essaies de faire passer. Une flèche à travers l'alignement des trous pour espérer atteindre le derrière des fins de l'égouttoir. Bah, c'est ça, en fait, avoir un projet de fiction. C'est-à-dire qu'entre le moment où toi, t'essayes et toutes les phases que tu dois passer, tous les retours que tu dois avoir pour que le truc existe, mais c'est même plus une question de chance à ce stade. Tu vois, c'est une question d'alignement de planète. Et ça me fait rire parce que dans le podcast que tu fais avec Théo, vous parlez à un moment d'écrire pour des marques. Et tu as une remarque en mode « Oh, mais moi, jamais je pourrais faire pour des marques parce que, en fait, il y a trop de gens à convaincre, quoi. » Tu te dis aussi comme ça, et ça va faire rire, parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est fou, en fait, c'est dans le scénario, à quel point, regarde, genre, il faut que je convainque, première étape, le chargé de développement. OK, ensuite, il faut que convainque sa producteur ou son producteur ou sa producteur. OK, bon. Imaginons qu'on part, qu'on est OK. Déjà, j'ai eu plein de retours sur mon texte. Mais très bien, on part ensemble. Donc, on devient une petite unité comme ça, tu vois. À partir de là, on travaille entre nous, donc à chaque fois, moi j'écris un truc, les chargés de développement, le producteur, aller-retour, souvent ils sont pas d'accord, mais je dis, tiens bon, on arrive à une version définitive. Nous, on est allés au chemin, j'étais payée pour normalement. Maintenant, il faut trouver un diffuseur. Donc, c'est pareil, j'ai fait toc-toc. T'imagines que j'ai le diffuseur, il y a je ne sais pas combien de comités de sélection. Pareil, imagine que tu as trouvé un diffuseur et tu as passé les 4 étapes de comité de sélection. Trop bien. Bon, maintenant, ce petit projet qui est sous forme de Bible, à ce stade, tu vois, il faut le développer en épisode. Et pour l'écriture de chaque épisode, il faudra convaincre exactement le même nombre de personnes. Et à chaque fois qu'une personne rentre dans la boucle pour te dire c'est bien ou pas bien, la personne, elle a plus ou moins quand même, elle peut arrêter le projet, tu vois. Et par exemple, moi, j'ai des histoires, malheureusement, j'ai vécu, hein, donc je travaillais sur 2 séries en développement pour Canal+. Donc j'avais rejoint les équipes une fois qu'elles avaient eu le diffuseur. Hein. C'était l'acteur de la série avait déjà 2 ans dans les pattes, voire 3 de développement. Moi, j'arrive et donc j'arrive au moment où il faut écrire les épisodes, tu vois. Et puis, j'avais 2 séries en même temps, Canal+, au même stade. En janvier, on attend le OK final à passer en tournage de Canal+. Et là, du jour au lendemain, les 2 séries sont débranchées, sans explication. La seule qu'on ait eue, c'est parce qu'en fait, il y a eu un changement de direction à Canal+, que le gars qui avait soutenu le développement de la série est parti et qu'il a été remplacé par un gars qui, du coup, repart à zéro et vive tous les développements qui ont été lancés pour pouvoir développer ses propres projets à lui. Et donc, du jour au lendemain, parce qu'il y a un changement de direction sur des projets qui avaient un élan, tu vois, qui étaient lancés depuis plusieurs années, boum, c'est arrêté, débranché. Et t'as plus tes yeux pour pleurer.
C'est horrible. Vraiment, je te regarde horrifiée depuis tout à l'heure. Ça donne pas envie de travailler dans le scénario, tout ce que tu racontes, hein, sache-le.
Mais je suis là pour être transparente.
C'est bien. C'est ce qu'on veut.
Là pour faire la pub. Non, mais c'est dur. Honnêtement, c'est extrêmement dur. Et moi, j'ai vu des gens... en fait, ce qui est dur, c'est que tu peux te dire, il faut tenir le bon. Une fois que tu auras fait ton premier truc, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Moi, c'est ce qui m'a tenu pendant très longtemps. Tiens bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et en fait, ce qui est dur, c'est de rencontrer des gens super chouettes, talentueux, en 45, 50 ans, et qui traversent les mêmes choses, tu vois. Et quand tu bosses avec un gars qui est super et talentueux, qui essaie encore de vendre ses projets et qui se prend les mêmes montagnes russes, et qui, à son âge, revient un soir déprimé, parce qu'en fait, son projet sur lequel il bosse depuis 3 ans n'existera jamais, bah, faut être solide, quoi. Tu vois, faut vraiment... C'est vraiment très très dur, et encore une fois, voilà, faut se dire que mais c'est très dur. Moi, je sais pas si j'arrive à le dire honnêtement, mais il faut se dire que la norme, c'est qu'en fait les choses n'existeront pas, en tout cas sous la forme de film ou de série, tu vois. Ça, c'est dur.
Personnellement, ça me donne envie de pleurer d'entendre cette histoire de ce petit homme que tu m'as raconté là. Tout de suite, je l'imagine rentrant chez lui, et j'ai beaucoup d'empathie pour cette personne qui existe certainement. Ça fait mal au cœur. Pourtant, toi, tu as réussi à passer toutes ces étapes, puisque tu le disais tout à l'heure dans ta présentation, tu as eu un long métrage qui a été diffusé sur Amazon Prime Video. Déjà, félicitations, ça doit être fou pour toi. Et du coup, comment ça s'est passé? Et dans quelle mesure, toi, tu as été impliquée dans ce projet? Jusqu'à quel point est-ce que tu as pu aller assister au tournage? Ou est-ce que, en fait, vraiment, ton boulot a été cantonné au scénario et tu n'as pas pu voir ce qui se passait après? Donc, voilà.
Bah, c'est une très bonne question, parce que la majorité des cas, ça aurait été l'option de la majorité des cas. Mais moi, ce que j'entends, c'est que je deviens un peu un prestataire pour aider le réalisateur et il me faut que c'est fait. Bisous, et le film continue. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de travailler avec la réalisatrice Héloïse Long. Donc, comment ça s'est fait avec Héloïse? On s'était rencontrés. J'avais fait une résidence, j'avais été prise à une résidence d'écriture à Cannes. Et suite à ça, je la rencontre parce qu'à l'époque, elle cherchait quelqu'un, pas pour écrire avec elle, mais plus pour échanger, faire du ping-pong d'idées. Voilà. Et moi, c'était la fin de la résidence et j'étais cramée, donc c'était parfait, en fait. Pour moi, de juste la rencontrer et de l'aider à avancer sur ses projets, mais juste en lui parlant, quoi. Et on s'est entendu, et donc, elle, en fait, elle avait déjà à son actif plusieurs choses. Elle avait la série Connasse, avec Camille Cotin, et le film Connasse, Princesse des Cœurs, et le film Larguée, également. Elle, c'était son 3e film. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, « Mabs, écoute, j'ai une idée de film, il faut qu'on écrive dessus. On va faire un film, on va faire une comédie sur la PMA. » Et rien que le concept, moi, je trouve ça hilarant de faire une comédie sur la PMA, sachant que c'est le sujet le plus rigolo du monde, quoi. Donc, on se pose. Et en fait, le film, pour répondre, on l'a fait ensemble, main dans la main, de A à Z. Tu vois, quasiment, par jour, pendant 9 mois. Donc, on était vraiment... On est extrêmement complémentaires avec Héloïse, donc ça, c'est super. Et on a travaillé On a tout fait ensemble, tout fait ensemble, tout fait ensemble. Elle me faisait relire, on était ensemble. Elle m'a forcé un petit peu, je pense, aux réunions chez Pathé, tu vois. Ils n'avaient pas l'habitude de voir les co-scénaristes venir, mais Louise a fait en sorte que j'y assiste. Et donc, on a fait tous les hauts et les bas, l'écriture, ensemble, les moments où le projet a failli déclencher, le moment où tout n'était pas déclenché, et hop, tout reporté. On a tout vécu ensemble. Et ça, c'est con. Enfin, voilà, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle s'est pas arrêtée à l'écriture. Et elle m'a fait venir sur le tournage. Si tu regardes le film, parfois tu m'as même dit, t'es dans le bon fond, tu vois, je suis dans quelques scènes. Elle m'a fait venir avec ma compagne, enfin, tu vois, donc c'était vraiment une ambiance, c'était super, quoi. Et jusqu'à la post-prod, elle m'a montré ce que c'était le montage, elle m'a montré tout ce qu'elle pouvait ouvrir comme porte, de générosité, elle l'a fait, quoi. Et grâce à elle, j'ai réellement ce qu'est faire un film de A à Z avec tous les côtés positifs et négatifs. En France, on ne voudrait pas, quoi, tu vois. Quand j'étais pas avec elle, mais qu'elle était soit sur le tournage, soit sur le côté promotion, le côté marketing ou quoi, elle m'appelait, elle me tenait au courant, elle faisait relire des interviews qu'elle faisait, tu vois. Enfin, et ça, c'est précieux, c'est absolument précieux. Et j'ai une chance absolue parce que c'est pas assez rare, quoi. Encore une fois, la norme, c'est l'option numéro 2 qui est encore. Peut-être que maintenant, les scénaristes peuvent un peu forcer la norme pour assister à un tournage. Et c'est même pas. Voilà. Et maintenant, en plus, quand tu vois. On parle de plus en plus de la condition des scénaristes en France, mais c'est quand même pas quand tu dis qu'on fait la promotion d'un film, de pas trop donner la parole aux personnes qui l'ont conçu, quoi. C'est une fou quand ils pensent. C'est intéressant, bien sûr, le point de vue du réalisateur, des actrices, des acteurs, des actrices, mais le point de vue de la personne qui l'a écrit, c'est intéressant aussi, quoi.
Je ne peux que confirmer cela, vraiment. Tu disais que la condition des scénaristes en France était complexe. Tu as même évoqué tout à l'heure, très discrètement, mais je l'ai quand même entendu, le fait que si tu es payé normalement, ce qui est un mot qui ne devrait pas apparaître après être payé, et aussi, il faut savoir qu'il y a quelques années, maintenant, je crois un ou deux ans, j'ai suivi un compte qui s'appelait « Balance ton scénariste ». Que tu connais à mon avis, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, c'était des témoignages de scénaristes sur leurs conditions de travail et les arnaques qu'ils avaient pu avoir et donc je reviens un peu sur tout ça. On parle déjà beaucoup de la condition complexe des auteurs en France parce qu'on est les moins bien payés du livre et voilà, mais on a quelques petite protection quand même avec le contrat, le fait que notre nom il soit mis sur le livre, qu'on puisse pas nous voler notre manuscrit normalement aussi. Je place normalement parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est fait piquer son manuscrit, mais ça doit exister, j'imagine. Je n'espère pas, mais ça doit exister. Alors que quand je lisais les témoignages des scénaristes, j'étais effarée et j'aimerais que tu nous en parles peut-être un peu.
Ouais, mais il y a un vrai problème qu'en fait, il y a un problème à mon sens de structure économique. C'est-à-dire que c'est nous scénaristes, qui produisons du contenu. On est, j'aime pas trop ce mot, mais on est les talents dans la mesure où sans nous, il n'y a pas de source. Normalement, quand tu as un produit, ça va devenir très école de commerce, mais parfois ça fait du bien de revenir à la base. Quand tu as un produit, normalement, tu le vends à un client. Et ton client, il dit oui ou non, mais c'est tout. Là, en fait, il y a un intermédiaire qui s'appelle le producteur. Encore une fois, si ton film il existe à la fin, c'est pas grâce au producteur, c'est grâce au fait que le producteur a réussi à le vendre à un diffuseur. Voilà. Donc, on a cette espèce de danse-là, de billard à trois bandes, où, en gros, mais c'est aussi un problème avec le producteur, mais pour pouvoir écrire une chose, je dois être payé, donc les producteurs me payent, sans qu'il n'ait aucune garantie que par la suite, ils vont réussir à le vendre. Donc, tout l'argent qu'ils vont donner à des scénaristes pour produire, pour écrire, et bien, c'est de l'argent qui est à risque, mathématiquement. Et donc, comme les producteurs sont quand même, c'est des petites entreprises, eux, l'argent à risque, c'est pas un bon business, quoi. Un peu plus, ils peuvent gratter du côté des scénaristes, dans l'espoir où ensuite ils pourront le vendre à un diffuseur, pour eux, la marge sera absolue. Ouais. Donc ça, je pense que déjà, structurellement, il y a un truc qui ne va pas aussi bien pour eux, parce que c'est vrai que c'est, tu vois, si je me mets à leur place, c'est pas normal qu'ils aient absorbé 100% les risques qu'ils prennent sur chaque projet, tu vois, et qu'après, ils font toc-toc, 5 diffuseurs, par exemple, pour les séries, tu vois, ils font toc-toc, Netflix, Amazon, France Télé, il faudrait les compter, mais le nombre, il est limité, quoi. Si tout le monde dit non, bon, ben hop, c'est fini, au revoir. Eux, ils ont perdu leur argent, et nous, notre projet n'existera jamais, tu vois. Donc déjà, ça, c'est une première chose, je pense. Et de par cet étranglement structurel, ben, y a plein de dérives. Et voilà, y a plein de... Comme maintenant, enfin, voilà, le principe, c'est que c'est de l'argent, quand tu payes un scénariste, c'est de l'argent à risque. Et ton intérêt, c'est de le moins payer possible. Ah, et ben, tu peux gratter des versions gratuites sans le payer, forcément tu le fais, tu vois. Parce que 1000 balles par-ci, par-ci, 1000 balles par-là, ça commence à faire. Forcément que, tiens, le projet de la petite, là, il est pas mal, mais elle a encore rien fait. Je vais mettre mon copain, ma copine scénariste, 45 ans de carrière, elle va leur prendre son truc, puis je peux dégager la petite, on le fait, quoi, tu vois. Et donc, et ça, c'est très, très dur. Puis, c'est comme tu as lu les témoignages du scénariste, c'est courant, quoi, tu vois. Et moi, ça m'arrivait, mais ça arrive à tout le monde, en fait. En début de carrière, c'est un peu la blague de, ah, ça y est, je t'ai fait un tube, bon, ben, cool, t'es un scénariste, tu vois. Moi, mon premier truc, ça a été mon contact pour une commande. C'est une série norvégienne, je sais pas quoi. Et moi, je travaille comme une dingue en proposant des arcs, en proposant plein de trucs. Pendant ce temps-là, mon agent de l'époque, il est abonné absent, il me négocie pas mon contrat. Donc, bon, ça, j'étais dans une espèce de truc. La productrice me disait, mais nous, il peut rien, ton agent répond pas, ben, mon agent répondait pas. Et en ce moment-là, ben, je bossais. Pas de choix, tu vois. Et à partir du moment où j'ai rendu les arcs, que là, on s'est dit que bon, ben, fallait quand même, c'est bon, j'ai fait un énorme boulot, il faut que je sois payé. Et là, les productrices m'ont dit, en fait, tu sais quoi, on va te remplacer avec quelqu'un d'autre, avec un peu plus de poids médiatique et tout. Ils avaient quelqu'un, une femme, je sais combien d'années sur Instagram pour prendre le projet, tu vois. Tout mon travail. Et moi, je n'ai pas été payée pour mon travail. Parce que mon agent, il ne s'est pas vu tout payé, tu vois. Et donc, c'est très compliqué. Après, là, maintenant, je suis extrêmement bien accompagnée. J'ai des avocates. Et je veux dire, c'est une autre dose, quoi. Donc, au moins, maintenant, je suis très, très bien accompagnée. Mais aussi, voilà, le problème, c'est que quand tu arrives, trouver les bonnes personnes, c'est compliqué. Comprendre comment le système fonctionne, c'est compliqué. Parce qu'en fait, les agents, ils ont aussi leurs propres intérêts, tu vois. Les agents, leur intérêt, c'est pour un même contrat. Par exemple, sur une série, eux, ils ont intérêt à mettre trois de leurs scénaristes sur la série. Parce que pour la même négo, ils vont avoir trois contrats, donc trois commissions. Voilà. Donc, ça génère aussi beaucoup d'entre-soi. Donc, si t'es pas dans les grands cercles, c'est dur de rentrer. Enfin, même si t'as un super profil pour voir cette série... Bah, si le truc est d'être hosté par une agence qui veut placer quatre de ses scénaristes avec qui le producteur a l'habitude de bosser, bon, bah, tu passes pas, quoi, c'est tout. Donc, c'est aussi très, très enfermé sur soi. Donc, voilà, après, il y a plein d'histoires. Il y a un truc, moi, qui m'a toujours choqué, c'est que dans le contrat que tu signes avec les producteurs, c'est quand même un début de relation, hein, c'est censé un peu être la lune de miel. Normalement, tu t'es pas encore pris la tête sur des trucs d'écriture et c'est censé être le bon moment. Il y a une clause. Je sais pas si c'est obligatoire, mais moi, je l'ai toujours dans mes contrats et je crois qu'elle est obligatoire. Il y a une clause qui autorise le producteur à te virer à tout moment avec un commun accord. Voilà. Tu commences une relation et dès cette relation, tu signes, tu es obligé de signer la clause qui autorise les producteurs à pouvoir te remplacer avec un commun accord si jamais ça se passe mal. Et moi, je vois ça, je suis avec un seul. Mal, enfin, ça va, tu m'as estimé ça, tu vois, c'est mon projet, c'est moi qui le porte et tout. Et à l'époque, ce qu'on m'avait répondu, c'est, mais de toute façon, si vous en arrivez là, tu ne voudras pas bosser avec. Ben, je suis un oui, mais c'est pas juste, tu vois. Quand tu regardes les trucs tout juste, c'est mon projet, c'est mon histoire. Ok, j'ai besoin de quelqu'un pour financer mon travail, mais en quoi cette personne aurait le droit à tout moment, sans raison, hein, sans argumentation, de me virer, tu vois. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça. Si bien qu'honnêtement, quand t'abordes un nouveau contrat d'écriture, bah, soit t'es avec des producteurs que t'as validé et tout, parce que c'est bien, soit un autre producteur, mais soit tu t'es trouvé dans un cercle, soit c'est des zones de tension, quoi.
Je n'ose même pas imaginer le fait de savoir que ton projet puisse être travaillé par d'autres personnes que toi. Enfin, on met tellement d'âme dans nos histoires, tellement d'âme dans nos personnages, dans ce qu'on veut raconter, et c'est du vol pur et simple.
Alors après, on te dit, mais il ne faut pas le prendre personnellement, mais il faut garder son sang-froid. Oui, bien sûr, pour te protéger, tu fais ce que tu as besoin de faire pour te distancier du problème. Mais le problème de fond, c'est que non, ce n'est pas normal, en fait. Et voilà, et qu'à chaque fois, oui, il y a des zones... En fait, les moments de conflit, ça arrive toujours parce que... Je ne sais rien, le producteur, il change d'avis sur le truc, ou les producteurs, ils n'arrivent pas à vendre, donc ça attend tout le monde, il faut reprendre. Mais si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut remplacer telle personne. Enfin, alors qu'en fait, oui, il y a un truc de qualité de projet, et encore, mais ok, il y a un truc de qualité de projet, mais en fait, non, c'est surtout les diffuseurs, ils ont une ligne éditoriale, marketing, et que cette ligne, elle change, c'est tout, et que parfois, ils changent d'avis, et que c'est un projet 20 plus à leur plaisir, mais là, ça ne plaît plus, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'un autre diffuseur va sortir un projet qui ressemble au tien dans 3 mois et que du coup, il va changer. Eux, ils débranchent, ils se foutent. Et après, c'est la catastrophe pour essayer de sauver les meubles, pour voir de qui c'est la faute, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Très souvent, c'est... Et moi, je suis dans une situation lunaire où quelque chose ne marche pas. Et plutôt que de se dire, bon, bah, écoute, je travaillais avec quelqu'un, je n'étais pas toute seule, côté d'eux, au lieu de dire, bon, ça ne marche pas, on vient se prendre un coup derrière la tête, ce n'était pas prévu, la personne qui devait nous le prendre ne nous le prend plus, et qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, avoir une approche constructive, quoi. Et bien, c'était un peu c'était un procès, en fait. On a vécu un procès de, en fait, tout ce qu'on a validé sur le projet ensemble il y a 3 mois, en fait, maintenant, bah, c'est nul, c'est notre faute, on vous l'avait dit, et c'était hallucinant, tu vois. Alors qu'en fait, on parle d'une grosse boîte qui valide les trucs, on ne se fait pas financer, donc c'est le coup de l'œil pour tout le monde. On revient faire une réunion qui a fait se transformer en procès, et là, c'était, en fait, le scénario est pourri, tu vois. Alors qu'en fait, il l'avait validé 3 mois avant, quoi. Donc, ouais.
C'est un peu culotté dans un milieu où tout doit être validé justement par tout le monde, de pouvoir... En fait, le principe, c'est que tu ne peux plus rejeter la faute sur personne, si plus personne ne peut faire de travail individuel sans
Exactement.
Avoir validation extérieure.
T'as tout compris. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est dur et ouais, c'est dur de parfois revenir juste au fait qu'on aime écrire, qu'on aime raconter des histoires et que bon, tu vois, tu comprends un peu comment fonctionne le système et ouais, ça, je trouve que c'est dur.
J'imagine bien. Toi, tu fais d'autres choses en plus que du faire du scénario, puisque tu fais aussi de l'accompagnement. Notamment, j'ai été un petit peu fouillée, tu accompagnes des écrivains qui veulent transformer leur roman en scénario de film ou de série. Comment on fait ça? Genre, déjà, créer de tout au tout, ça doit être un sacré boulot. Mais quand tu te retrouves avec des pavés de 600 pages que tu dois réduire en 120 pages de scénario, j'imagine même pas comment on coupe des scènes qui sont importantes sur le papier, mais qu'on juge inutiles sur l'écran. En fait, il y a tellement de questions que je me pose sur cette adaptation-là. Parce que tu vois, j'ai regardé justement, j'ai vu que la Fémis faisait, bon, ça coûte 5000 balles pour ceux qui se posent la question, que se faisait une formation sur, je crois, 6 mois pour apprendre à transformer un roman en scénario et tout. Mais ça me paraît tellement énorme comme travail. Donc, je trouve ça déjà chouette que tu accompagnes des gens à faire ça.
Ouais, mais ça l'est. Et honnêtement, je ne connais pas la formation de la famille. Ça se trouve, elle est vachement bien. Je pense que la clé, en fait, c'est d'une bonne adaptation. Soit tu retournes vraiment à l'essence du début, de la racine du début. Parce qu'en fait, tu arrives à un moment où l'auteur a déjà écrit tellement que tu ne peux pas lui dire bon, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, ça n'a pas de sens. Tout est bien, toutes les scènes sont bien, tout fait sens. L'idée de l'adaptation, c'est de donner un nouveau sens à l'histoire. C'est pas de la transcrire de manière égale, quoi. C'est vraiment de trouver, ok, cette œuvre, elle existe, elle est super. Quel film on pourrait tirer, quel personnage on pourrait mettre plus en avant pour raconter, à partir de ce que tu as créé, une autre histoire qui soit dans ton univers, tu vois. Donc, soit on revient juste à la colonne vertébrale de ce que l'auteur a voulu raconter, et là, à partir de là, on met une structure de film classique, entre guillemets, donc c'est ce que je te racontais, c'est les trois actes, la page choisir des bassins, machin. Et donc là-dedans, tu as tout le matériel de l'auteur. Donc en fait, là, il faut juste revenir vraiment à la trame initiale de ton personnage. Faut pas le voir comme on enlève tout le reste, parce que le reste, il est là, mais juste revenir à cette essence très précise, tu vois. Soit, et ce qui est le plus intéressant à faire, forcément, c'est tu prends un élément, un truc que tu as posé là, mais qui n'est pas très exploité dans ton bouquin. Et là, tu le tires. Et donc, de ton univers, tu crées une autre œuvre qui sera cette fois-là une œuvre audiovisuelle. Tu vois, ce personnage secondaire, en fait, il est intéressant. Ou alors, cet événement que le personnage traverse, ben, en fait, on peut peut-être en faire quelque chose, tu vois. Après, il y a aussi des adaptations très littérales. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est que c'est pas du tout le même langage, tu vois. C'est pas le même langage. Donc, il faut partir du lore, il faut partir vraiment de ce que l'auteur a voulu raconter et voir comment on peut... développer sans se dire qu'on va devoir taper dans le bouquin ou quoi, c'est pas du tout le cas. C'est maintenant, t'as bâti un monde. Là, on a vu tout le nord de la carte. Qu'est-ce qu'il y a au sud? Est-ce qu'au sud, c'est donc une zone qu'on n'a pas encore explorée, ou est-ce qu'au sud, c'est la même histoire mais qu'on va transcrire dans le cinéma, dans le langage cinématographique? Tu vois? Et non, en vrai, c'est passionnant à faire.
Ouais, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui prennent ça comme une trahison dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'histoire, même si effectivement le film, cinématographiquement parlant, est bon. J'ai, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est un film que j'ai regardé énormément petite. C'était le Percy Jackson, le tome 1 de Percy Jackson, qui avait été adapté en film, qui est un super film, mais une très mauvaise adaptation en termes de, en tout cas, de respect de l'œuvre originale. C'est-à-dire que si on n'a pas lu les livres, on passe un très, très bon moment et c'est génial. Si on a lu les livres, il y a beaucoup de femmes qui se sont senties totalement trahies par ce film. Et il y en a eu beaucoup d'adaptations ratées parce que je pense qu'entre 2005 et 2015, il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations de livres. Il y a eu les Eragon, il y a eu quoi aussi, où ça a pas suivi les Darkest Mind, où il y a eu Cult of Main. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui ont tenté d'être adaptées en film, où ça a pas suivi derrière, peut-être parce que justement les lecteurs se sont sentis trahis par certaines choses. Donc ça doit être délicat en plus d'avoir tout ce côté-là où il y a déjà une fanbase qui est au tournant.
En fait, ce qui est intéressant, moi je vais être honnête avec toi, pour moi il n'y a pas une bonne adaptation qui réussit, parce qu'à partir du moment où tu as lu un bouquin, jamais rien ne sera aussi beau que ce que tu as imaginé. Et point. Enfin, même quand tu es scénariste, même si tu es fier du film qui existe à l'écran, et ça on en parle avec plein de copains, ça ne sera jamais aussi bien que ce que tu as imaginé dans ta tête, parce que dans ta tête, tu as un budget à 50 millions, tout est clair et tout. Donc déjà, rien ne battra ton imagination. Donc ça, déjà, il faut se le dire.
Bah, c'est Babel qui dit, enfin, je pense que c'est une phrase connue, mais en tout cas, elle est très citée dans Babel. Tout acte de traduction est un acte de trahison. Donc finalement, l'adaptation, c'est un peu la même chose.
C'est exactement la même chose. Mais à partir de là, en fait, moi, je pense que le plus important, c'est le rapport à l'auteur. Si l'auteur ne veut pas, mais en fait, non, tu n'as pas le droit et tu n'y vas pas. Si l'auteur est intéressé, ben, il faut lui montrer que c'est pour autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ça ne sera jamais aussi bien que ce que tu as écrit dans la tête des gens. Ça, mais c'est évident. Par contre, on peut essayer de voir si on peut en faire autre chose. On peut essayer de voir si ça peut avoir un sens avec une forme cinématographique, si ça peut avoir un sens d'aller creuser ce personnage de cette manière que tu n'as pas fait. Mais non, moi, honnêtement, l'adaptation... Oui, j'étais une grande fan des Royaumes du Nord, de Philip Pullman. Bon, bah.
L'adaptation en série est géniale.
Pas si mal, mais oui.
Par rapport à celle du film, tout
oui.
de suite.
Mais tu vois, c'est compliqué, ça demande des budgets fous, et dans tous les cas, c'est... Mais je pense qu'en et en tout cas, ce qui est important, c'est d'y aller main dans la main. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui disent « Bon, moi, je ne veux pas savoir. Faites ce que vous avez à faire, choquer, mais je ne veux pas savoir. » Il y a des auteurs qui disent « Moi, je veux écrire à 100% avec vous. » Tu vois, ça, c'est compliqué. Parce que c'est tout à fait normal qu'il soit là, mais il faut qu'il soit là dans les bonnes conditions mentales, tu vois. Il faut qu'il soit là parce qu'il comprend qu'on va prendre son lore pour en faire autre chose. Et parfois, c'est compliqué de lui faire comprendre que telle ou telle chose, ça ne marchera pas bien à l'écran, on va perdre en rythme. Parce qu'en fait, une écriture cinématographique, c'est une écriture super rythmée. Ce qui est super dans le roman, c'est qu'en fait, tu te poses et tu prends ton temps et tu vas à ton rythme. Le film, il t'entraîne, tu vois. Et ça, c'est compliqué, parce que du coup, bah, parfois, faut faire comprendre que c'est pas assez rapide, c'est pas si ceci, c'est pas cela. Et c'est juste une question de langage, en fait, d'écriture, tu vois, c'est pas du tout dire que c'est plus ou moins bien, en fait. C'est, voilà, donc ça peut être compliqué. Et puis, je sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui adaptent eux-mêmes leur scénario, je suis pas certaine.
Je crois que les Hunger Games, c'est Suzanne Collins qui est au scénario, pour le coup. Et je sais également que Harry Potter, elle est au scénario. Et qu'elle a scénarisé aussi les Animaux Fantastiques et tout ça, parce que bah, pour le coup, les scénarios sont sortis au format livre, ce qui est assez étonnant quand même. C'est pas très courant, mais je sais que ces deux femmes, du coup, sont scénaristes de leur propre roman. Pour le reste, là, il y a eu l'adaptation Six of Crows. Je ne suis pas sûre que Leigh Bardugo ait été scénariste. Elle a été impliquée dans la série parce qu'elle a été plusieurs fois sur les tournages et tout, mais je suis pas tellement sûre parce que ça a beaucoup beaucoup dévié. Et pour le coup, ce qui en fait était très intéressant, c'est qu'il y avait deux trilogies, enfin une actuellement c'est une duologie, mais le troisième tome finira par sortir et une autre trilogie terminée. Et la première qui est pas encore finie, elle se passe après l'autre. Bah, ils les ont réunis et ils ont exploité l'avant de l'histoire. Enfin, ils ont fait des choses, justement, ils ont exploité le lore, comme tu disais, quelque chose qui n'était pas encore fait, pas exploité, la genèse de ces personnages en attendant que leur histoire arrive. Bon, elle n'arrivera jamais puisqu'ils ont annulé la série. Mais enfin, effectivement, ça résonne par rapport à ce que tu viens de dire.
Ça, c'est top. Tu vois, je trouve que là, c'est les plus belles collaborations. Et ça, je n'en ai pas fait. Hein. Donc, je l'imagine, mais je trouverais ça super d'avoir. Dans le respect, tu vois, il y a conscience entre l'auteur et le scénariste. Et le scénariste, il propose, et il consulte l'auteur de « est-ce que ça te paraît logique par rapport à tes trucs, à tes machins ?» Et puis l'auteur se laisse un peu porter par ses nouvelles propositions, tu vois. Et c'est pas lui qui met les mots dans le cambouis, tu vois. Mais ça doit être, je pense que ça doit être agréable, comme si tu fais confiance à la vision du scénariste et au fait qu'il va pas dénaturer son travail, ça va être dur à trouver, mais en tout cas, ouais, c'est des collaborations que je trouve incroyables de point de vue narratif, de dire deux cerveaux qui tu vois, qui vont au même sens à partir d'une idée géniale d'une personne, l'autre essaie d'apporter ses compétences, et tu vois, pour en faire une autre œuvre, je trouve ça top, quoi.
Et dis-moi, toi, il y aurait eu un livre que tu aurais aimé adapter en scénario?
Oh là là, c'est une bonne question. Pendant longtemps, ouais, les Royaumes du Nord, tu vois. Parce que du coup, je suis née au 91, donc tu vois, les Royaumes du Nord, c'était. Enfin, j'ai réfléchi. Là, la première chose qui me vient, ouais, c'est les Royaumes du Nord.
C'est une bonne réponse.
Oui.
Et j'ai une petite pensée à Laetitia Lajoigny qui va sûrement écouter cet épisode et qui est une grande fan et qui va sauter de joie à l'idée d'entendre ça. Voilà, c'est une petite pensée pour elle. Dis-moi, est-ce que tu penses que les écrivains, ils auraient à apprendre des scénaristes pour mieux cadrer leurs romans, notamment en travaillant un thème, son impact sur l'intrigue principale, les intrigues secondaires et personnages? Parce que pour le coup, en scénario, tout est très cadré, comme tu disais, parce que tu travailles avec beaucoup, beaucoup de monde. En roman, tout peut être également très cadré, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent à écrire en écrivant et ont parfois leur premier roman publié et sans avoir pris des cours d'écriture, sans avoir suivi des méthodologie particulière. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses intéressantes à transférer du scénario vers le roman?
Honnêtement, je vais te dire que non. Non, parce que honnêtement, ce qui est beau dans le roman, c'est que justement, tu n'as pas à suivre à la règle toutes ces contraintes, tu vois. Après, les contraintes sont intéressantes pour créer. Tu vois, j'adore avoir des contraintes. Moi, tu me dis, fais un truc comme ça, mais je suis très mauvaise pour avoir des idées. Par contre, tu me donnes une contrainte, une deuxième, et là, j'explose, tu vois. Mais juste sortir de rien, moi, ce que j'aime dans le roman, et il ne faut pas y toucher, c'est justement le fait que c'est une zone d'expérimentation, tu vois. Et un roman, en vrai, tu sais pas où ça va. Et c'est super de pas savoir là où un film, malheureusement, à notre époque, et surtout moi, avec ma déformation professionnelle, je sais où ça va. Enfin, pour autant, c'est pas agréable, mais t'as pas d'élément de surprise. Moi, c'est pour ça que quand j'écris des scénarios, je regarde jamais de film. Parce que déjà, je suis dans ma propre construction narrative et j'ai pas envie de m'embrouiller avec d'autres constructions narratives. Mais en plus, parce qu'en soi, quand t'écris un film, un scénario, t'as besoin d'inspiration, mais l'inspiration, tu l'as dans les moments où t'es surprise par les choses, tu vois. Moi, je lis énormément de romans parce que c'est là où je ne sais pas où je vais. Parce que si l'autrice ou l'auteur décide tous les trois chapitres de faire une dinguerie, tu vois, elle peut. Et c'est trop bien d'avoir cette liberté. Donc moi, je trouverais ça trop triste dans les romans d'avoir cette même, on va dire, rigidité que dans les scénarios, quoi.
Bien sûr. Donc tu dois être embêtante à regarder un film avec toi parce que tu dois deviner la fin dès le départ.
Alors, pas tout le temps. Honnêtement, pas tout le temps. J'essaie de me mettre parfois en mode de ne pas analyser. Mais il est vrai que, après, tout dépend bien sûr de la finesse d'écriture du film, tu vois. Mais il y a des trucs... Mais après, c'est pas grave, tu vois. Si... À la 15e minute, il se passe ça, et que moi, je sais que ça correspond à ça, et que donc, il y a de grandes chances qu'à la 60e, il se passe ça, et qu'à la 90e, il se passe ça. C'est pas pour autant que je vais pas apprécier les mouvements et l'émotion qui sont, tu vois, c'est sûr que t'as pas un film, de toute façon, honnêtement, tu le vois rarement pour être surprise.
Si, t'es net.
Voilà, sauf des films comme ça. En tout cas, les films au grand public, tu vois, les comédies, les trucs, les machins, tu vois, et nous, c'est ce qu'on a fait pour La Graine. La Graine, c'est une comédie romantique. Et donc, forcément, il faut respecter tous les principes de la comédie romantique. Et donc, tu sais où tu vas, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai, dans un bouquin, c'est une zone pour moi à préserver, quoi. Pitié.
En vrai, c'était bon à savoir parce que je suis quelqu'un qui cadre énormément. Mais ça veut pas dire suivre une méthodologie à la lettre. Tu vois, parce que, notamment, dans mon cas, j'ai beaucoup étudié l'anatomie du scénario de John Truby. Et je l'ai vulgarisé pour les écrivains en disant bah voilà comment on peut transformer par exemple une idée tout à fait cliché en un scénario qui tient la route. Et ma conclusion à la fin, c'était je hais John Truby parce que c'était horrible de faire ça comme travail. Et surtout, c'est pas une méthode à appliquer à la lettre quand on écrit un roman. Parce que ça en fait quelque chose d'assez, comme tu dis, prévisible.
Ouais, et c'est pas ce que t'attends d'un roman. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attends d'un roman. Après, attention, s'il y a des romans, tu vois, si moi un jour j'écris un roman, je pense qu'il sera structuré comme un scénario, tu vois, c'est normal. Et donc, en un sens, il sera peut-être prévisible. Et, Et il y a des romans qui sont prévisibles et structurés comme un film qui sont super, tu vois. Genre, Jean-Baptiste Andreas qui fait donc, le scénariste avant, forcément, tu sens des choses, tu vois.
Donc, c'est puis super. Même dans les livres, il y a des codes. Hein.
Oui, voilà. Mais je trouve ça, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve trop chouette dans le roman, quoi. C'est le côté, tu ne sais pas où tu vas, c'est vraiment une forme et un fond complètement libre, quoi.
Et j'ai aussi la même question, pour le coup, c'est une question des auditeurs qui me disent si, quel scénario déjà écrit, toi, t'aurais aimé écrire?
Moi, j'aime bien toutes les histoires d'émancipation. C'est bon. S'il y a un petit côté historique, c'est encore mieux. Donc, je peux te dire aussi bien les films comme Jula comme Beckham, tu vois, de 2002, je crois, qui raconte l'histoire d'une fille indienne à Londres qui va faire du shoot, tu vois, ça parle. Que les, par exemple, j'avais un film qui m'avait marqué sur la naissance du mouvement des suffragettes à Londres. Tu vois, ça c'est Beckham, ça j'adore, tu vois. Là, je pense à ces deux-là, je pense à. Qu'est-ce que je. Ouais, tous les films, moi je suis très comme biopic historique, je suis très. Émancipation. Ouais, c'est un peu les deux qui me viennent là.
C'est deux bonnes choses, c'est une bonne réponse.
Même si ce sont des films qui sont durs à faire, ceux-là, tu vois.
J'imagine bien, parce que pour les vendre après, ça doit pas être simple.
Bon, mais tout ce qui est historique, là, on te fait comprendre en France que ça coûte trop cher, donc t'oublies. Et ouais, c'est. Voilà. Là, ou un roman, tu vois, là, je pourrais l'écrire, mon roman. Ça serait dur, bien sûr, parce qu'écrire est super dur, mais je pourrais me dire, tiens, je vais au bout de mon truc. Là, forcément, c'est ça qui est un peu compliqué dans le scénario, c'est qu'il y a quand même ce truc de tu peux partir dans ton délire, mais est-ce que si c'est pour que le marché le prenne pas à la fin, bah, bon, ça peut être déceptif, quoi. Faut toujours un peu avoir le tout de suite, même si t'as une idée, tout de suite, c'est est-ce que ça peut aller sur le marché français, tu vois.
Bien sûr. Tout ça, ça m'amène un peu à ma dernière question, qui est la question signature du podcast, parce que ça fait déjà bientôt une heure qu'on papote, le temps file vite. Si tu devais donner trois conseils à un écrivain ou une écrivaine qui aurait envie de s'amuser à tenter d'écrire le scénario de son roman, voilà, qui aurait envie d'essayer ce format-là, peut-être pour se cadrer, peut-être pour s'amuser, peut-être pour vraiment le proposer, peu importe ses raisons, ce serait quoi ces trois conseils?
Alors, premier conseil, ce serait d'accepter que tu pars sur une nouvelle aventure. Voilà. D'accepter que ça va être un autre langage, que tu ne pourrais pas faire exactement ce que tu as écrit à la page et ce que tu as rêvé dans ta tête, quoi. Ça, c'est OK, tu sais que tu pars pour une nouvelle aventure. Deuxième conseil, ce serait de se dire que, bah, donc, comme on l'a beaucoup parlé, c'est une industrie qui est extrêmement codifiée. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les codes, ça s'apprend. Tu vois, il y a plein de bouquins, il y a des super newsletters qui permettent d'apprendre rapidement le basic. Mais il y a des codes à respecter, voilà. Les codes, c'est la pagination, le côté du rythme, bien sûr, c'est le rythme, mais bon. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, en fait, c'est juste d'écouter son cœur, quoi, c'est y aller. Enfin, si t'as un truc en toi qui me dit j'ai envie de faire ça, mais fais-le, tu verras bien si la vie te montre par la suite, si jamais c'était une bonne idée ou non, mais si on commence, c'est ça qui est dur, c'est que si on commence nous-mêmes à nous censurer alors qu'on a des envies, bah, il ne nous reste plus grand-chose, tu vois, en tant qu'auteur et qu'autrice. Donc, suivre son cœur, tout en disant que ça va être une nouvelle aventure, être ouvert aux défis, et s'il y a des choses à apprendre, accepter qu'il faut apprendre des techniques, tu vois, pour rejoindre un nouveau domaine d'écriture.
Bah écoute, merci beaucoup Pauline pour tous ces conseils et pour cette discussion qui a été fort instructive. C'était la première fois que je recevais une scénariste sur ce podcast, et je trouve ce métier très fascinant de l'extérieur, mais bah, tu vois, on en a un peu discuté et j'avais un petit peu regardé aussi de mon côté avant, depuis quelques temps, très complexe en France, peut-être encore même plus précaire que le métier d'écrivain. Et je suis pas sûre que cet épisode changera beaucoup de choses dans le métier de scénariste, mais en tout cas, si ça peut permettre à des gens d'en apprendre un petit peu plus sur le métier et de mieux considérer les scénaristes, ce serait déjà chouette.
Ouais. Et tu vois, j'ai un dernier conseil qui, moi, me fait beaucoup de bien, en tout cas depuis l'automne dernier, et tous les projets que j'ai en ce moment, bon, je l'ai listé au début, c'est, je pense qu'en tant qu'auteur, autrice, il faut vraiment décloisonner ses expériences pour dissiper ses angoisses. Tu vois, il y a vraiment un truc où c'est nous, en fait, qui écrivons. C'est nous qui avons les histoires. Et c'est important de savoir rebondir, pas dans le sens... il peut y avoir des phases de deuil créatif, tu vois. Et de se dire qu'en fait, c'est nous qui aurons toujours de quoi créer, c'est nous qui aurons toujours de quoi raconter des histoires, et que ce soit sur une forme ou une autre, notre voix, notre nos passions, ce qu'on a envie de raconter, trouvera toujours un public. Et même si ça veut dire, une fois c'est un roman, une fois c'est un scénario, une fois c'est des articles, ou en fait il faut vraiment, parce qu'en tout cas, scénaristes, on fait souvent croire qu'il y a un milieu, le milieu, le milieu, le milieu. Et après, tu te poses et tu te dis, non. Alors, encore une fois, si tous les scénaristes se formeraient, on voit très bien ce que ça donne, tu vois, aux États-Unis. Donc, non, le pouvoir, et ça, c'est mon dada, mais le pouvoir, et bon, les mains des gens qui créent. Voilà.
Donc, il faut continuer de créer.
Exactement. Même si c'est dur, mais ça décloisonne, tu vois. T'as différents projets, différentes formes, mais il y aura toujours un public pour trouver ce qu'on fait.
J'aime beaucoup cette phrase, effectivement. J'aime beaucoup cette idée de persévérance et de résilience en disant vous voulez pas de moi quelque part, et j'irai ailleurs.
Exactement.
Et je ferai autrement. Merci énormément, Pauline.
Merci.
Mais de rien, vous pouvez retrouver Pauline sur son compte Instagram et dans sa newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode, donc ne vous en faites pas. Si vous voulez, vous avez juste à descendre et aller voir. Moi, j'étais vraiment très, très contente de t'avoir avec moi sur le podcast et je te remercie de tout mon cœur. Et pour toutes les personnes qui nous ont écoutées, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un avis, une note sur vos plateformes d'écoute préférées et d'aller suivre Pauline. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à mercredi prochain.